Bonjour. C'est vrai que j'étais enthousiaste d'être avec vous aujourd'hui. Et quand j'étais le mois dernier, en janvier, il y avait du monde, c'était incroyable. Mais aujourd'hui, c'est juste fantastique ce que Dieu est en train de faire. Êtes-vous d'accord avec moi? Dieu est en train d'agir partout, partout, partout. Et juste de voir ce qui se passe à travers... J'étais à Paris dans une grande église et il y avait... Les réunions se multiplient, plus de 1000 personnes. À chaque fois, ils sont à 5 réunions, 1000 personnes. J'étais en Martinique, 1000 femmes réunies ensemble. Ici, 600 femmes et plus avec Pasteur Sophie qui se sont réunies pour prier. Nouvelle vie, la prairie, ça augmente. Nous vivons des temps miraculeux. Je sais, ça vous enthousiasme pas. Moi, je suis enthousiaste de voir Dieu agir. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es assis à côté d'un miracle en ce moment. Tu es littéralement assis à côté d'un miracle. Et Dieu est grand et il fait de grandes choses. À la première réunion, je suis entrée ce matin, il y a un homme qui m'a dit, Pasteur Stéphanie, je veux vous dire quelque chose. J'ai pris mon dernier comprimé la semaine passée, le dernier médicament. Dieu m'a complètement guéri de ma maladie. Amen. Dieu guérit encore aujourd'hui. J'étais à Québec il y a quelque temps et on était dans une conférence et dans la louange, la dame est venue nous voir, elle m'a dit, je viens d'avoir un message, ma mère est entrée aux soins intensifs d'urgence, elle est entre la vie et la mort. Est-ce qu'on peut prier? On s'est arrêté, on a prié et quelques jours après, je reçois un message, elle a été complètement guérie, sortie des soins intensifs. Dieu agit. Il est le Dieu des miracles. Il agit dans nos corps, dans nos âmes, dans nos cœurs. Et c'est un bonheur d'être avec vous. Je joins ma parole à celle de Pasteur Ben pour votre générosité. Et on fait des choses incroyables, Nouvelle Vie, avec la mission. Pasteur Sonia fait un travail remarquable. Et si vous avez du temps dans vos prières, priez pour nous. Nous partons 14 femmes avec Pasteur Sonia aux Philippines, dans les bidonvilles, donner de la nourriture, des vêtements. Là, on fait une conférence pour femmes, pour les femmes vraiment débiles. Bidonville et chacune vont recevoir un cadeau, quelque chose pour elles, les enfants aussi avec des jouets. Alors priez et pour nous et ceci est possible grâce à votre générosité. Et priez pour moi, je vais prêcher en anglais pour la première fois. Ah, il n'y a pas de limite! Alors, j'ai beau m'appeler Reader, mon anglais est encore à perfectionner. Donc, j'ai hâte d'être là. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer la célébration en vous racontant un événement qui a pris place en novembre dernier. J'ai eu le privilège d'apporter la parole dans un autre pays, je vais dire comme ça. Et il y avait beaucoup de femmes. Et après le séminaire, il y a une femme pour m'honorer. Elle a dit, j'aimerais t'inviter à manger à la maison chez moi. Fait que moi, j'ai dit, ben, pas de problème, ça me fait plaisir. Donc, j'arrive dans la maison, ouf! Juste le salon, là, c'était comme les meubles en velours rouge et de la dorure. On dirait que c'était des meubles Louis XIV, Louis XVI, là, la France. Ça, c'est incroyable! Je dis, waouh, il y a salon et salon. J'étais vraiment impressionnée. Et là, pendant que je suis là, j'attends, je vois des photos. Elle me dit, regarde, ça, c'est mon mari. Ah, j'ai dit, ah bon? Elle dit, il est photographié avec le président du pays. Ah bon, quand même, tu vois? Et là, j'étais vraiment impressionnée. Et là, il y avait une autre photo. Et là, tu le vois, il est comme, tu sais, un peu bras dessous, le grand sourire, il avait l'air de rigoler. Et là, j'ai bien reconnu, il n'y a pas besoin de me le dire, elle dit, ben, il était photographié, il s'est fait photographier, il le connaissait avec Nelson Mandela. Quand même, hein, vous imaginez. Alors, il ne m'en fallait pas plus. Alors, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il reste à voir? Et finalement, il y avait un autre cadre et le monsieur était pris en photo avec Mohamed Ali. Wow! Et là, je me suis dit, wow, Stéphanie, là. Et je me suis posé la question, c'est drôle, d'une fraction de seconde. Je me suis dit, toi, Stéphanie, là, avec qui aimerais-tu être pris en photo? Avec qui voudrais-tu que je me suis fait mettre ça sur Instagram, TikTok, qui sait, tu sais? Avec qui voudrais-tu te faire prendre en photo? Et si vous êtes on peut mettre la diapositive, mais si vous aimez le hockey, messieurs, mesdames, est-ce que peut-être c'est avec Nick Suzuki? Je sais qu'ils sont pas très bons, là, encouragez-moi. J'ai essayé de trouver quelqu'un de célèbre dans les joueurs du Canadien. Écoute, mon choix était assez limité, mais peut-être un joueur de hockey, Mbappé, si vous aimez le foot. Voilà. Et peut-être que moi, j'aimerais prendre une photo ou rencontrer. En fait, quand j'étais dans ce salon-là, c'était plus que prendre une photo. Je me suis dit, qui j'aimerais rencontrer pour un cœur à cœur? Tu sais, dans ce beau salon-là, un salon, c'est un moment où tu peux, tu sais, où tu peux échanger, un moment convivial. Puis moi, je me disais, oh, que j'aimerais ça, rencontrer Michelle Obama. Hein? C'est un bon choix. Ou alors vous direz Céline Dion, peu importe. Et je te pose la question, qui aimerais-tu rencontrer? Quelqu'un d'influent, quelqu'un de marquant, qui a marqué l'histoire. Alors, ça s'est commencé à tourner dans ma tête. Et là, j'ai eu une idée qui a frappé mon esprit. Je me suis dit, moi, Stéphanie Rieder, je peux inviter à tous les jours, dans mon salon, la personne la plus puissante de l'humanité. Je peux inviter la personne la plus influente, toutes catégories confondues. Je peux inviter Jésus à tous les jours dans mon salon. Je peux vivre des moments d'intimité à tous les jours dans mon salon avec Jésus. Et c'est lorsqu'on regarde la puissance de Dieu. Je ne sais pas si c'est mon côté scientifique, et soyez rassurés, je ne ferai pas une démonstration de la science, mais lorsqu'on pense à Jésus, Jésus était Dieu créateur. Et pour moi, comment je peux saisir la puissance de Dieu, c'est à travers la création. Pour moi, chaque fois que je regarde les étoiles, que je regarde l'univers, que j'entends des choses, je me dis, waouh, comment c'est immense. L'univers est tellement immense que tu dis, il y a quelqu'un qui a créé ça. Et la Bible nous dit, hein, en Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 16, je vous le lis, ça dit, ce Fils, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. C'est lui qui a créé les choses invisibles et les choses visibles. Toutes choses, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Toi, moi, Ben, Nathalie, Jean-François, Sephora, Sof, mettez le nom que vous voulez, tu as accès au Dieu qui a créé tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre. C'est pas mal mieux qu'Mbappé, même si on l'aime bien, voyez-vous? Et je me disais, c'est fou comment j'ai accès à ça. Et quand je vous disais, pour moi, l'univers, ça me montre tellement cette grandeur-là. Et peut-être je vais faire un cours d'astrophysique, mais vous savez que nous, à une galaxie de près de chez vous, nous faisons partie du système solaire. Et notre étoile, hein, c'est le Soleil, et la Terre tourne autour du Soleil. Pendant des années, on pensait que tout le monde tournait autour de la Terre, mais sans vouloir vous offusquer, nous ne sommes pas le centre de l'univers. Au contraire, nous tournons autour de notre étoile. Et le Soleil, vous savez, on reçoit ses rayons. C'est puissant, le Soleil, c'est chaud. Et savez-vous que le Soleil, il est tellement gros que si on pouvait ouvrir le Soleil, savez-vous combien de planètes Terre on pourrait mettre dans le Soleil? Juste pour vous montrer la grosseur de notre étoile. Le Soleil peut contenir 1 million de planètes Terre. Et le Soleil, c'est loin d'être la plus grosse étoile de notre système. Au contraire, le Soleil est une petite étoile parmi plein d'autres étoiles. Savez-vous que dans notre galaxie, la Voie lactée, la galaxie contient 400 milliards d'étoiles, toutes aussi grosses que le Soleil. Et c'est fascinant de voir notre galaxie faire partie de milliards. Savez-vous combien en date d'aujourd'hui, dans l'univers connu, combien il y a de galaxies? Il y a plus d'une centaine de milliards de galaxies. De milliards qui contiennent des centaines de milliards d'étoiles. Et la Bible nous dit qu'il tient l'univers dans la paume de sa main. Moi, je connais le Dieu qui tient l'univers dans la paume de sa main. Et l'univers entier contient, savez-vous combien qu'il y a d'étoiles connues à ce jour? Dans une semaine, ça va être encore plus, puis dans un an encore plus. Il y a 40 puissance 22 milliards milliards d'étoiles, si vous voulez. Donc, c'est 44 plus 23 zéros. Ça, c'est le nombre d'étoiles. Et les étoiles, ils ont une puissance comme encore plus que le soleil. Il faut être plus puissant que ce que l'on crée. Dieu est le Dieu tout-puissant créateur de l'univers, mais il est le Dieu créateur de la vie. Dans Jean chapitre 1, verset 3-4, je vous lis, ça dit, « Au commencement encore, on parlait de Jésus, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Il est la vie, il a donné sa vie, il peut te redonner la vie. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Dieu, Jésus, est le créateur de l'être humain, des cellules. Vous savez, les cellules, là, c'est petit, 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 c'est gros comme la tête d'une épingle. Et dans ces cellules-là, il y a des organites extrêmement complexes. Juste dans le noyau, il y a 2 mètres d'ADN. Et 2 mètres d'ADN, c'est sur 4 lettres, ça code exactement qui tu es. Les beaux yeux foncés que je vois là sont créés par Dieu, codés exactement comme il voulait. Le beau petit nez fin, voilà, c'est dessiné. Tu es un miracle de Dieu. Tu es le fruit, le miracle de Dieu. Pensez, et j'aime l'enseigner en bioéthique, quand j'enseigne à l'école biblique, tu sais, souvent on va parler de sexualité. Moi, je dis aux étudiants, savez-vous comment on fait des bébés? Un ovule et un spermatozoïde qui se rencontrent. Voilà, c'est pas très sexy, mais c'est comme ça. Mais pensez-y, 2 cellules qui se rencontrent, on font fusionner, ils vont se multiplier pour devenir un embryon, un fœtus, un être humain d'une complexité incroyable. Savez-vous que dans votre cerveau, il y a autant de cellules dans votre cerveau qu'il y a d'étoiles dans la galaxie, notre galaxie. Pendant que vous m'écoutez, vous digérez, vous pensez, tiens, habituellement, est habillé en noir, est habillé en vert aujourd'hui, je sais, vous y avez pensé, et vous êtes en... Et quand je me suis fait écrire sur Facebook, comment ça, pasteur, vous habillez toujours en noir, alors bon, j'ai décidé de faire un effort. Je fais des blagues, mais pendant que je vous enseigne sur des choses bien plus importantes que la couleur de mes vêtements, vous êtes en train de penser, c'est incroyable le cerveau. Et savez-vous que votre corps humain, je vous ai parlé du nombre d'étoiles dans l'univers à 4 avec 23 zéros. Savez-vous combien de cellules qu'il y a dans votre corps? 30 billions de cellules. 30 billions de cellules. Ah oui, ça ne vous dit rien, 30 billions. Imaginez, c'est quoi? Comment on peut estimer 30 billions? Je vous donnais c'est tellement titanesque, juste pour vous donner une idée. Si on commence, on décide qu'on prend Ben, Pasteur Ben, puis on commence à compter ses cellules. Mettons qu'on voudrait compter 1 million de cellules, combien de temps ça prendrait? 1 million de cellules, si on compte, 1, 2, 3, ainsi de suite, à la vitesse d'un chiffre à la seconde. Compter jusqu'à 1 million comme ça, ça prendrait 11 jours et demi. Là, on a juste compté 1 million pendant 1 million. Donc, on n'a même pas compté toutes les cellules de son gros orteil. OK? Là, si on veut compter 1 milliard de cellules, au même rythme encore, pour compter ça, ça prendrait 32 ans. Voyez-vous comment la différence entre 1 million et 1 milliard? Il y a une énorme différence. Là, vous n'êtes pas rendu à 30 billions. Si on voulait compter, pas 30, mais 1 billion, et on commence à compter, on aurait à peu près juste la moitié, le tiers du corps de Pasteur Ben de compter. Pour compter au même rythme, pour les 1 billion, ça prendrait 32 000 ans. Et vous êtes constitué de 30 billions de cellules façonnées par Dieu, désirées par Dieu. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été conçu pour un but et une destinée. Et Dieu t'a créé parfaitement. Tu es un être sophistiqué, complexe. Et là, j'entends les hommes qui vont dire, « Ah, regarde chérie, elle l'a dit, Pasteur Stéphanie, ce matin, tu es complexe, n'est-ce pas? » Mais complexe dans le bon sens. Vous êtes des créatures complexes, aimées de Dieu. Et la Bible nous dit, hein, Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, nous sommes son poème. Dieu a écrit un poème pour Nathalie, pour Mathieu, pour Jean-François, pour Simon. Tu es son poème. T'es pas ici du hasard qu'il a. Il y a des objectifs, des buts, des rêves préparés spécialement pour toi. Et je sais pas si ça vous fait la même chose, mais de savoir que ce grand Dieu créateur des milliards d'étoiles et de galaxies, des billions de cellules, ce grand Dieu me connaît personnellement. Même David, dans les psaumes, il disait, « Qui suis-je? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Des fois, on peut avoir l'impression que Dieu, il est tellement puissant, tellement grand, qu'il a oublié mes 30 billions de cellules à moi. Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Et ça peut donner cet effet-là. Mais il y a quelques années de cela, ça fait quand même, ça remonte à quelques années. Qui connaît le pasteur David Wilkerson? Ça trahit. Alors, les plus jeunes, vous avez aucune idée c'est qui, mais ceux qui ont certains âges, vous savez, c'est un homme de Dieu incroyable qui est parti à New York, qui a construit l'église Times Square là-bas. Il a écrit le livre La Croix et le Poignard, des conversions incroyables. Mais dans son regard, et Pasteur Ben et Sophie l'ont rencontré aussi quand il est venu à Nouvelle Vie, il a les yeux bleus perçants. Écoute, quand tu le vois, là, t'as juste envie de confesser tous tes péchés avant parce que t'as l'impression qu'il voit tout. Tellement qu'à Nouvelle Vie, que mon bureau où il situé, il y avait, si vous allez dans les couloirs des bureaux, il y a des portraits des pionniers et moi, devant mon bureau, il y avait Pasteur David Wilkerson et à chaque fois que je rentre le matin, j'avais quasiment peur, tu sais, il m'avait l'air puissant et que j'ai même changé le cadre de place parce qu'il m'intimidait trop, tu sais. Et une fois, Pasteur Claude a été invité, il va prêcher souvent là-bas et du temps qu'il était encore vivant, on a eu le privilège d'accompagner Chantal, mon mari et Pasteur Claude et Chantal là-bas. Et j'ai pu rencontrer dans son salon Pasteur David Wilkerson. Et imaginez, j'étais impressionnée, j'ai jeûné 2 semaines pour être sûre que j'avais plus rien en moi. Je fais des blagues. Mais écoute, il m'intimidait tellement. Fait quand on arrive dans la pièce, il y a un grand canapé. Et lui, il est assis au centre du canapé. Et là, il y a 2 fauteuils. Alors, mon Pasteur Claude rentre, il va s'asseoir sur un fauteuil. Mon mari, il suit, s'assoit sur l'autre fauteuil. Donc, il reste Chantal et moi, on est les 2 filles. Et là, il reste juste un petit tabouret, tu sais, un petit pouf comme ça. Donc, Chantal, intimidée, pendant que David Wilkerson, il est tout seul sur son canapé. Donc, on est tous un peu gênés, fait qu'elle, elle s'assoit sur le petit pouf comme ça. Puis moi, trop gênée, trop impressionnée, je m'assois littéralement sur les genoux de Chantal. On est assises toutes les 2 sur le pouf. Vous pourriez demander, elle va s'en rappeler, puis Pasteur Claude aussi. Et vois-tu l'effet que tu peux être intimidé devant une personne? Et des fois, Dieu, on peut avoir l'impression que c'est intimidant. Mais ce grand Dieu-là, il est un Dieu puissant, mais il est un Dieu personnel, compatissant. Et c'est la beauté de la chose. Dieu aurait pu rester Dieu créateur, tout puissant, mais pas nécessairement être près de nous. Et la Bible nous dit que ce même Jésus, qui était 100% créateur, a choisi, il est venu marcher sur la terre, et sur la terre, il était 100% humain. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il pouvait compatir à nos besoins. Le fait qu'il était humain, il a été tenté en toutes choses. Alors, il comprend la tentation. Il a ressenti ce que nous pouvons ressentir. Et c'est la force de notre Dieu. Il est capable de tout, mais il est capable de nous comprendre. Même la Bible nous dit que quand il a jeûné, il est venu sur la terre, il a jeûné pendant 40 jours. Après 40 jours, la Bible nous dit il eut faim. Moi, j'ai commencé en janvier avec un jeûne. Après 24 heures, je crevais de faim. Et là, je me suis dit, tu vois, Jésus me comprend. Quand Lazare, son ami meurt, il pleure. Quand il voit des choses qui trouve ça injuste ou c'est pas bien, et ça fait du bien un petit peu, hein, si vous êtes un petit peu impulsif comme moi là des fois, quand il voit les vendeurs dans le temple, il prend les tables puis il renverse ça, puis qui ça vous est déjà arrivé de renverser une table? Et vois-tu? Et donc on peut, il comprend certaines émotions qui peuvent venir nous chercher, et c'est ça là, tu peux à tous les jours rencontrer, venir inviter dans ton salon, qui est ton cœur, passer des moments d'intimité avec un Dieu qui est puissant, mais un Dieu qui est compatissant. Mais encore plus que ça, Parce que on peut se voir venir, vous allez prier avec quelqu'un ici, tu peux rencontrer des gens qui sont compatissants. Ça fait du bien de se sentir compris. Ça fait du bien. Mais Jésus, en plus de nous comprendre, il est un ami. Il est un ami. La Bible nous dit dans l'Évangile de Jean qu'il ne nous appelle plus serviteurs, mais qu'il nous a appelés amis. Jean, chapitre 15, verset 15, ça dit « Je vous appelle plus serviteurs parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Et quand je vais dans ce lieu secret, dans la prière, dans mon salon avec Jésus, j'ai quelqu'un qui est puissant, qui peut changer les choses, qui me comprend, mais quelqu'un qui m'aime, qui est un ami fidèle. La Bible nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Et moi, j'ai le Dieu créateur de l'univers est mon ami. C'est quand même puissant de penser qu'on a accès à tous les jours à ça. Mais si on est honnête, et là, je vais parler pour moi, parce que je sais qu'à Nouvelle-Ville-la-Prairie, là, vous êtes en feu ici, là, il se passe des choses incroyables, on en discutait. Donc, vous êtes super spirituel. Ça, je le sais. Mais mettons pour moi, même si je sais que Jésus est puissant, que Jésus est compatissant, que Jésus est aimant, et que j'ai accès à lui, il peut malheureusement arriver dans notre vie qu'il arrive des situations qui viennent prendre la place, s'insérer entre Jésus et moi. Dites amen avec moi. Vous êtes de la même nature que moi. Et une des choses, même si on sait tout ça et qu'on aime Jésus de tout notre cœur, il peut arriver que le manque de temps nous empêche d'entrer en relation avec Jésus. Et aujourd'hui, ça va, la vie roule à un rythme effréné. Êtes-vous d'accord avec moi? Le travail, les transports, les enfants à l'école, les loisirs, le hockey, peu importe, ça roule. Il faut manger santé, manger bio, s'entraîner. Écoute, il y a tellement d'affaires à faire qu'on est à bout de souffle. Et malheureusement, une des premières choses, et moi, je lève la main, je m'inclus. Une des premières choses, quand on est occupé, qu'on enlève de notre vie, c'est le temps avec Jésus. Et ce matin, il y a zéro condamnation. Je pense que je viens assez régulièrement, vous savez mon cœur. C'est l'idée est-ce qu'en janvier, tu sais, je suis partie en force, c'était le jeûne, j'étais à la prière, le mercredi soir, et en février, c'était un petit peu plus dur, puis rendu en avril, il ne pue. Tu comprends? On est tous bien intentionnés, mais la vie va tellement vite. Et je sais que tu le sais, mais j'aimerais te rappeler. En fait, de plus en plus, je disais ce matin à la première réunion, ça fait, je vais te le calcul, 41 ans que je connais Jésus. J'ai accepté Jésus dans ma vie à l'âge de 15 ans. Faites le calcul, ça en fait 56. Et il y a eu plein de temps dans ma vie où j'ai des études au travail, j'étais une femme sur le marché du travail, où j'étais à bout de souffle et souvent j'ai sauté la prière. Et je vous dirais si j'ai quelque chose à vous communiquer ce matin, que de plus en plus maintenant, c'est un non négociable. Plus je suis occupée, plus je dois prier. Et j'ai dit, en fait, depuis 2022, il y a 4 phrases qui ont changé ma vie. Et c'est pas très révolutionnaire. Même Jésus a dit, hein, comment il faut prier, puis il a dit, notre Père. Mais depuis 2022, j'ai prié de toutes sortes de façons, prié la Bible, mais je m'applique à tous les jours. Ça peut être le midi, ça peut être le soir avant de vous coucher. Mais notre Père, juste 15 minutes de ta vie, tu commences ta journée, notre Père. Mon Père, je ne sais pas comment était votre relation avec votre Père, si elle était moins bonne ou bonne, mais je peux vous dire que vous avez un Père puissant, aimant, compatissant. Comme moi, je suis une maman, je veux le meilleur pour mes enfants tous les jours de leur vie. Alors, tu vois, moi, je me lève, je me dis, mon Père, j'ai mon Père, notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit loué, juste à penser à sa grandeur, à sa puissance, à son amour. Et là, les deux phrases que je dis et redis, que ton règne vienne. De plus en plus, je prie, le plus important, c'est viens régner sur mon cœur. Viens régner. Est-ce que je suis parfaite? Non. Mais je lui demande son aide, viens régner sur mon cœur. Et la dernière phrase, c'est que ta volonté soit faite. Pas mon ministère, pas ce que il faudrait que, Seigneur, fais-ci pour ça, fais-ci, fais-ci, fais ça. Que ta volonté soit faite. Et quand j'arrive quelque chose, je me dis, ben j'ai prié ta volonté, donc c'est peut-être pas ce que je veux en ce moment, mais t'es en contrôle parce que t'es souverain. Donc, juste qu'on puisse s'encourager, que le manque de temps, la Bible nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et dans ces moments-là, il va vous redonner l'énergie, la créativité, les idées, peut-être vous donner des convictions. Donc, que le manque de temps ne vienne pas nous séparer de cette relation sur le canapé, tu sais, qui vienne s'insérer entre Jésus et moi. La deuxième chose, je ne sais pas pour vous, qui peut des fois nous éloigner, sans physiquement nous éloigner, vous pouvez être ici dans ce lieu, connaître Jésus depuis 40 ans comme moi, mais il y a des événements, il y a des choses dans notre vie qui peuvent des fois créer une distance dans nos cœurs, dans ces temps de relations-là. Et souvent, c'est la culpabilité. Parce qu'en fait, moins je prie, j'ai une grande révélation, si vous prenez des notes, moins je prie, moins je prie. Okay? Donc, quand je prie moins, ben, j'ai plus de difficulté à aller prier et là, je peux me sentir coupable. Donc, c'est une forme de culpabilité, des fois, qui nous empêche de s'approcher de Jésus. Mais en fait, la culpabilité, il y a une saine culpabilité. C'est-à-dire que, et c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui dit, quand je fais quelque chose qui est mal, je me sens mal. C'est un baromètre. Donc, je fais quelque chose qui est mal, je me sens mal. Mais la Bible dit que si je confesse mes fautes, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Donc, je confesse mes fautes et je me détourne de mes mauvaises voies. Et ça, c'est sain. Et malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu et ils font des choses qui sont mal, ils ne se sentent pas mal. Donc, nous, c'est sain. Le problème, c'est quand tu te sens coupable de tout et de rien. Lorsque tu dis non à quelqu'un pour quelque chose parce que tu étais fatigué, « Oh, je me sens coupable, j'aurais pas dû dire ça. » Dites « Amen » avec moi, je suis pas la seule. Et il y a des hommes aussi dans ce lieu, hein, que c'est pas juste féminin. Quoique c'est beaucoup féminin, mais il y a aussi, il y a pas de genre dans ça. Et où ça devient malsain, c'est quand on se sent coupable pour des choses du passé que Jésus a déjà pardonné. La culpabilité est un piège de l'ennemi qui vient nous paralyser et nous empêche de s'approcher de ce Jésus-là. Et c'est tellement important. Des fois, on se sent coupable alors qu'on était la victime. Des fois, on peut se sentir coupable. Et quand j'étais à Nouvelle-Vie en relation d'aide, des femmes qui avaient eu des gestes, des fois qui ont aussi... on peut parler je disais à la première réunion que le Saint-Esprit vous parle à vos cœurs, qu'il vous montre, est-ce que quelque chose dans votre cœur que tu as fait, peut-être ça fait 10 ans, peut-être que tu te sens jamais une bonne mère, un bon père, une bonne épouse, un bon époux, peut-être c'est des actions, et le Seigneur te dit, aujourd'hui, je veux te libérer. Je veux te libérer, que tu sois complètement libre de la culpabilité. Et j'ai dit peut-être qu'en janvier, j'avais une parole prophétique. Et moi, je crois sincèrement, quand je me préparais, que Dieu voulait spécifiquement dire à un homme, à une femme, « Tu es libre. Je te pardonne. C'est à toi de te pardonner. » Et il y a un texte dans la Bible qui parle assez fort, hein, qui nous dit... dans 2 Corinthiens, peut-être vous n'êtes jamais arrêté sur ce texte-là, c'est 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, ça dit « En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut qu'on ne regrette pas. » Et ça, c'est la saine culpabilité. J'ai une tristesse qui me pousse à un changement. Mais la suite du texte nous dit « Mais la tristesse du monde, elle, produit la mort. » Et vous savez, Judas, dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que Judas, il s'est repenti. Quand il a vu qu'il avait vendu Jésus, il avait livré Jésus, Judas s'est repenti. Mais vous savez la fin de l'histoire? Judas s'est enlevé la vie parce qu'il ne croyait pas que Jésus le pardonnerait. Croyez-vous que Jésus l'aurait pardonné? Et malheureusement, souvent, ça conduit une mort spirituelle parce qu'on pense que Jésus ne peut pas pardonner ça. Il n'y a pas de petit ou de grand péché devant Dieu. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et en plus, vous savez, le fils prodigue, c'est la même chose. Quand il s'est éloigné puis qu'il a fait toutes sortes de choses, Il a dit, quand il est revenu vers son père, il a dit, traite-moi comme le dernier des derniers. Il se voyait comme sans valeur, et pourtant, son père l'attendait les bras ouverts. Jésus t'attend les bras ouverts. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et il y a tellement de versets, il y a plus toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, aujourd'hui même, pour toi, Dieu peut faire toutes choses nouvelles. Il dit qu'il efface de nous nos fautes comme l'Orient de l'Occident, qu'il a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait. Et j'espère et je prie pour quelqu'un ce matin, que tu sors de lui, puis peu importe ce qui a pu se passer, c'est peut-être pas toujours dans ta tête, mais il y a une tâche qui reste là, que vois-le spirituellement, Dieu déchire. Il t'a pardonné, tu dois te pardonner. Amen. Et alors, entre Jésus et nous, le manque de temps peut nous séparer un peu de cette relation-là avec Jésus, de ces temps de communion avec lui. J'ai dit la culpabilité, des fois on se sent coupable, puis des choses qu'on traîne du passé et que le Seigneur veut venir relâcher. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, il y a aussi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, une des choses qui peuvent m'éloigner, me faire une petite distance entre Jésus et moi, c'est la déception. La fameuse déception. Avez-vous déjà été déçu dans votre vie? En fait, la déception, c'est une émotion. On peut être déçu lorsqu'on est déçu peut-être de nous-mêmes, lorsqu'on est déçu de quelqu'un d'autre, lorsqu'on a été trompé, désappointé. Ça peut être un patron, ça peut être un parent, tu peux être déçu dans ton mariage. Tu peux être déçu de tes enfants. Peut-être que ce n'était pas ça. Peut-être que tes enfants ils ont eu des problèmes de santé, de toutes sortes de choses. Ce n'est pas comme ça que tu voyais. Et il y a comme une forme de déception qui peut prendre place et faire venir entre nous et Dieu. Et en fait, moi, ça me fait rire parce que est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier? Là, tu pries, là, tu commences, là, c'est sérieux. Je commence un jeûne, puis là, je déclare les promesses, puis là, il va se passer quelque chose ici, là. Seigneur, ouais, là, là, là. Puis là, finalement, moi, je suis assez combative. Et finalement, il se passe rien. Ça vous est-tu arrivé, ça? Je voudrais juste vous... Est-ce que c'est déjà arrivé que même... C'était pire qu'avant? OK, on se comprend bien, hein? Et moi, il y a des choses que je n'ai pas comprises. Tu sais, par exemple, quand tu vois Jéricho, tu sais, Josué s'en va là, ils sont... Ouais, ils s'en vont pendant que les musiciens approchent tranquillement. Ils sont là, puis là, Dieu leur donne un plan, puis vous allez avoir la victoire. Fait que là, ils partent, tu sais. Puis là, ils tournent autour de la... Déjà, le plan est douteux, on est d'accord, hein? C'est un peu douteux. Mais ils font parler, puis là, ils tournent un tour. Mais il semble que moi, là, si j'avais été Dieu, j'aurais dit, gars, moi, ils ont encouragé. M'a laissé tomber un petit caillou, là, pouf! Puis là, ils vont rentrer au camp, ils vont dire, hey, ça commence à tomber, chérie, regarde, hey, les gars, on retourne là, il serait retourné le deuxième tour de la ville, puis waouh, là, il y a 3, 4, 10 petits cailloux qui tombent. Let's go, tu sais? Rien du tout. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, là, vous savez l'histoire, septième tour, on entoure encore sept. Et pensez-vous qu'à chaque fois qu'ils tournaient, il devait se dire, coudon, qu'est-ce qui va se passer? Coudon, qu'est-ce que. Et des fois, c'est ça, avec Dieu. Vous savez, la déception, c'est quand les choses ne se passent pas comme on pensait. Les tempêtes, des fois, on peut penser, quand je vis un coup dur, une tempête, des fois, on peut dire, ça peut m'éloigner de Dieu. Mais en fait, la tempête, on est tellement comme un peu pris dans le vent, puis tout est. Que quand tu as une nouvelle vraiment difficile, ce que tu fais, c'est que tu t'accroches à Dieu. Mais la déception, c'est sournois. Tu comprends? Tu pars, tu as plein de foi, puis là, tu te dis, il va se passer quelque chose, puis finalement, ça ne marche pas. Fait que là, tu recommences, puis là, finalement, c'est peut-être pas comme tu pensais. Et là, tu n'oses quasiment plus prier. Moi, je ne parle pas de vous, là, je parle de moi. OK? Tu n'oses quasiment plus prier parce que tu as peur d'être déçu. Fait comme ça, si je le prie pas, amen. Et malheureusement, la déception, ça vient nous briser, mettre une distance entre Jésus et moi. Peut-être pas, peut-être tu le dis pas haut et fort, mais à l'intérieur de toi, il y a peut-être quelque chose qui te dit, j'ose plus, j'ai trop peur d'être déçu. Et si je te pose la question, As-tu déjà été déçu de Jésus? Tu dis, il me semble que je pensais que, hey, pasteur Stéphanie a 40 ans avec Jésus, ben elle a déjà été déçue de Jésus. En fait, les plus grands, les amis de Jésus, ceux qui l'ont connu, qui ont marché avec lui pendant une période de temps, ont été déçus de Jésus. Et c'est, on va regarder le texte alors que j'arrive à la fin. Et moi, je n'ai pas de jugement pour eux parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais eux, c'est l'histoire des deux hommes qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez ce texte-là. Hein? Et ils s'en vont, l'histoire prend place. Et au moment où Jésus est mort, ça fait 3 jours que Jésus est mort. Et là, pour eux, ils sont en route. Et alors que mes musiciens s'en viennent tranquillement, alors que ces deux gars-là sont en route sur le chemin, ils commencent à échanger les uns, l'un et l'autre. Et c'est tellement profond, je vais vous lire le texte, c'est dans Marc chapitre 24, verset 15, ça dit, « Pendant qu'ils échangeaient leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Et les deux gars disent, l'air attristé, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ce jour-ci? » « Quoi donc? » leur demande-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » Et là, il commence à dire, « Ah, c'est un prophète. » Ils sont tellement déçus qu'ils ne reconnaissent même plus Jésus comme le Messie. C'est un prophète qui parlait bien. Et là, il dit, « Nos prêtres, nos chefs des prêtres, nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que cela est arrivé. Et moi, j'ai déjà marché sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont là. Imaginez, moi, je me suis déjà mis dans leur peau. Imaginez, ils ont aimé Jésus comme un ami. Ils se sont mis en danger pour lui. Ils ont cru que c'était un Messie, que c'était le Sauveur. Ils ont vu Jésus agir. Ils ont vu probablement payer pour son ministère. Puis là, Jésus est cloué de façon honteuse, mort honteux, entre deux brigands. C'est fou, imagine la scène. Vous connaissez l'histoire, la fin. Mais eux, ils ne la connaissent pas. Et dans leur culture, pourquoi que la Bible, je vous ai lu le texte, ça dit, hein, ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Pourquoi la Bible précise ça? Parce que pour des Juifs, c'était impossible. Peut-être ressusciter, c'était difficile à croire. Mais si Jésus devait ressusciter, il fallait que ça soit en dedans de 3 jours. Parce qu'après 3 jours, l'âme était sortie du corps. Donc, logiquement, c'était impossible qu'il puisse le faire. Impossible. Et des fois, peut-être que tu es arrivé ce matin, tu vis une situation. Tu es comme ces hommes sur le chemin d'Emmaüs. Il y a une situation de ta vie que logiquement, tu ne vois pas comment Jésus peut intervenir. Peut-être logiquement, tu ne vois plus. Eux, là, sans douter, ils ont pu dire que c'était le Messie. Ils ont tellement douté qu'ils disent que c'était un prophète. Des fois, on oublie la puissance du grand Dieu créateur quand on est dans la déception. Et c'est tellement fort qu'ils sont tellement déçus que la Bible dit qu'alors qu'ils marchent à côté d'eux, les yeux ne peuvent pas le reconnaître. Et c'est ça la déception, mes amis. Des fois, on est déçus, puis ça nous empêche de voir Jésus. Mais Jésus n'avait jamais arrêté de marcher avec eux. Jésus était à côté d'eux. Et c'est ça que ça fait malheureusement quand on est déçu. On s'éloigne de ce temps où on a de la difficulté à revenir dans cette relation de prière. Et en fait, c'est dans cette relation-là que nos yeux s'ouvrent. Et la suite du texte, je ne lirai pas, mais la suite du texte nous dit qu'ils sont entrés dans une maison. Et là, ils ont communié ensemble, ils ont mangé avec Jésus. Et Jésus, il a brisé le pain. Et probablement, quand ils ont vu Jésus briser, ça leur a rappelé, « Hey, les gars, c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit qu'il allait mourir et ressusciter. Peu importe la façon, peu importe si je le comprends, il l'a dit et il l'accomplit. Jésus, Dieu, a accompli ses promesses. Et parfois, nos yeux, parce qu'on est déçus, on ne voit pas, mais Dieu est un Dieu fidèle qui ne change pas. Et dans ce moment tout à l'heure de prière, si tu as besoin, il est ici pour venir ouvrir tes yeux. Et c'est fou parce que quand tu regardes l'histoire, ça s'arrête là. Pour eux, la croix, Jésus mort en deux brigands dans un tombeau, ça a l'air du plus grand lieu de défaite. Sur ce chemin-là, tous leurs espoirs sont anéantis. Mais en fait, sans qu'ils le sachent, le miraculeux avait déjà pris place, c'est-à-dire que la croix avait l'air d'un lieu de défaite, mais la croix était le plus grand lieu de victoire. Et c'est exactement ça. Peut-être qu'en ce moment, ta situation a l'air d'un lieu de défaite, mais Dieu change les lieux de défaite en lieux de victoire. Et pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas en train d'agir, d'intervenir dans ta vie, dans ta situation. Et Dieu, ce grand Dieu puissant, créateur de l'univers, des milliards d'étoiles, des billions de cellules, il te connaît. S'il est capable de créer tout ça, crois-tu qu'il ne peut pas guérir ton corps? Crois-tu qu'il ne peut pas restaurer ton mariage? Crois-tu qu'il ne peut pas t'aider à être un bon parent, qu'il ne peut pas t'aider au travail? Il n'a pas créé des billions de cellules pour qu'il soit indifférent de nous. Il attend qu'on vienne à lui. Il comprend tout. Des fois, on a besoin d'être compris, ça fait du bien. Mais Dieu, il comprend, mais en plus, il peut tout. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, mais j'aimerais prier pour vous ce matin, alors qu'on va se quitter dans quelques instants. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse chanter juste ce chant quelques instants. Juste maintenant, j'aimerais qu'on change la réunion. Dans quelques instants, on va aller fraterniser ensemble. Un café, c'est important. Le temps passé en famille, Nouvelle Vie, La Prairie. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu veut agir aujourd'hui. Que Dieu veut venir guérir quelqu'un de cette culpabilité-là, te rendre libre. Je priais hier, vendredi, quand je me préparais, et c'est comme si je voyais des gens qui allaient sortir de ce lieu libre, enfin. Comme des fardeaux qui tombent complètement libres de vos épaules. La déception que Dieu va donner à quelqu'un dans ce lieu, le don de la foi, c'est quoi? C'est de voir les choses qui ne sont pas encore, mais comme elles vont devenir. Dieu peut transformer toute situation. Alors là où tu es, commence à dire, Seigneur, est-ce que je suis prise avec la culpabilité? Est-ce que je suis prise avec la déception? Est-ce que je manque de temps avec toi? On va juste le chanter.